Memphis est une ville de 600 000 habitants qui a vu la naissance du blues, ses chants nostalgiques des esclaves. Sa vie, Memphis le doit au fleuve, au Mississippi de Mark Twain, au Mississippi des showboats. Memphis, qui porte aujourd'hui le deuil du prophète, vit surtout dans le passé.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À Maurice Chardot.
Une page d'histoire mise en récit par un texte, des archives et des musiques choisies, chaque dimanche à 15h sur France Culture. Voici Jukebox. Aujourd'hui donc, voyage à Memphis, Tennessee, une ville dont l'histoire musicale compte sans doute parmi les plus riches au monde. Pendant un demi-siècle, cette cité ségrégée du sud des États-Unis, enrichie du commerce des plantations de coton voisines, avait vu le développement du blues du Delta. Son électrification avec B.B. King avait favorisé l'émergence du rock'n'roll, d'Elvis Presley à Jerry Lee Lewis, et accompagné l'essor du rhythm and blues et de la soul music via le règne du légendaire label Stax. Dans cette ville brutale, traversée de tensions raciales, devenue aujourd'hui une vitrine pour touristes, l'industrie musicale avait néanmoins permis de dépasser ces clivages entre blanc et noir jusqu'à l'assassinat de Martin Luther King en 1968. Aujourd'hui, Memphis, la musique en héritage. Lorsque le type, ce jour d'automne, gare sa guimbarde sur le parking, il est saisi par le froid mordant et la pluie fine. Il ne s'attarde pas et rejoint rapidement l'établissement dont le nom, en façade, ne comporte plus qu'une lettre sur deux. Il se dit que pour un prêteur sur gage, ça n'inspire pas vraiment confiance. À l'intérieur, il se dirige vers le comptoir du fond. Au passage, il détaille dans les vitrines le bric-à-brac habituel de l'Amérique aux abois, une large gamme d'armes à feu, des grille-pains, des perceuses et d'autres outils de bricolage. À l'employé qui, l'air chafouin, le regarde s'avancer sans un mot de bienvenue, il tend son large étui noir que l'autre ouvre en ôtant sèchement. « Tiens, il manque une corde. » « Et alors ?» répond le type. « Il fallait que je vous l'accorde aussi ?» L'employé ne relève pas et extrait la guitare de son étui, une vieille Gibson, modèle Lucille, qu'il considère comme si c'était une vulgaire tondeuse à gazon. « 800 $, annonce-t-il. « C'est tout ?» s'étonne notre bonhomme. « Mais elle en vaut au moins 4 fois plus, elle date de 81, c'est le modèle de B.B. King, enfin... » L'autre l'arrête. « Vous n'êtes pas le seul à vous débarrasser de vos rêves d'adolescent. » Alors, notre homme se résout, signe le papier, empoche sa liasse et s'éloigne. Au moment de mettre le contact, il repense à sa jeunesse et à ce groupe qu'ils avaient formé avec ses frères et ce jeune batteur dont il ne parvient pas à retrouver le nom. Peu à peu, ils se sont comme submergés par la nostalgie. Tandis qu'au loin, sur le boulevard, les pick-up crachent des gerbes d'eau, lui reste immobile derrière son volant. Tout dans ce paysage de l'est de Memphis lui paraît alors figé, rouillé et vain. Why our eyes must always be turned backwards. Why our eyes must always be turned backwards. You still using that same old crutch, sinister color of my skin. You still want to call me a damn boy. Can't you see that I'm all percent mad? Now we ought to get it together. Come on and let's be friends. Because the world was made for every man. Ooh, eyes must always be turned backward now. Why our eyes must always be turned backwards. Listen.
beautiful for ample ways of gain. Over here in America, people are fussing about the bussing, y'all. Lord, don't you let there be another Attica over here in America. You're killing all of our John F. Kennedy's and you're slaughtering all of our Martin Luther King. Look at what you did to my brother Malcolm X in New York City. Yes, you did it to him in New York City. Yes, you did.
Longtemps tombé dans l'oubli, le chanteur de soul Lou Bound, originaire de Memphis, de son vrai nom Ronald Edward Lewis. Il avait d'abord tenté sa chance au nord, à Chicago, avant de s'en retourner dans sa ville natale, où il avait enregistré en 1974 un album pour le label Stax, comprenant notamment ce « Why must our eyes always be turned backwards ?» autrement dit « Pourquoi nos yeux doivent-ils toujours être tournés en arrière ?» Sans doute parce que dans la jungle du monde contemporain, la concurrence est féroce. Lou Bound en fera d'ailleurs les frais. Son disque ne sera jamais distribué en raison de bisbilles entre producteurs. Peut-être également, car d'un point de vue musical, à Memphis plus qu'ailleurs, il est difficile de ne pas considérer le passé, l'histoire artistique de cette ville, longue et foisonnante, ayant toujours été le reflet de l'âpreté de l'existence. Baptisé du nom de l'ancienne capitale de l'Égypte antique, Memphis avait été créé en 1819 par Andrew Jackson, propriétaire d'une immense plantation de coton voisine. Elle est bâtie sur la rive orientale du fleuve Mississippi, parmi les magnolias en fleurs et les barges dérivant lentement. Au XIXe siècle, Memphis est une ville riche, capitale mondiale du commerce du coton, mais aussi du commerce du bois. Pendant la guerre de sécession, les armées unionistes prennent la ville comme QG. Tandis que le Ku Klux Klan naît en 1865, les esclaves affranchis de la région viennent s'y regrouper. Malgré la fin de la guerre, Memphis reste une ville furieusement ségrégée. Il y a les quartiers blancs et les quartiers noirs. À chacun ses hôpitaux, ses écoles, ses églises, ses hôtels, ses restaurants et ses cimetières. Tandis que les Blancs profitent dans leurs maisons à colonnades des retombées économiques du commerce du coton, se regroupant dans leurs parcs ou leurs quartiers, les Noirs, la moitié de la population de la ville, sont privés de presque tout. Mais les choses changent à la faveur d'une grave épidémie de fièvre jaune en 1878. Memphis se vide alors de nombre de ses habitants et un certain Robert Reed Church, considéré comme le tout premier millionnaire afro-américain du Sud, décide de racheter une partie de la ville. Il spécule, loue et encourage l'investissement des Noirs. Bill Street, une large artère perpendiculaire au fleuve, devient le cœur économique du Memphis afro-américain. S'y ouvrent saloons, banques, barbiers, magasins de vêtements, établissements de nuit, de jeux, églises, mais aussi plusieurs théâtres. Le Savoy, le Pastime, le Daisy, le Pee-wee. La musique sourd de chaque pas de porte, et notamment le blues, cet héritage culturel des anciens esclaves, une musique récemment codifiée par un certain W.C. Handy, composant notamment l'un des premiers hymnes de Memphis, ce Beale Street Blues. Memphis est alors une étape pour les immigrés des campagnes qui souhaitent gagner les grandes villes du Nord. C'est une ville dangereuse, surnommée Murder City. Il y règne un esprit de frontière et une sorte de loi du plus fort propre à nombre de villes américaines. En 1909, un démocrate, Edward Crump, est élu maire. Il met en place une méthode toute personnelle, faite d'achats de votes, notamment de ceux des Noirs, de favoritisme et de musellement de l'opposition. Il tente d'assainir la ville, de réduire l'immigration rurale, mais ne parvient pas à faire taire les violences alimentées par une police raciste. Crump restera aux manettes de Memphis pendant près de 4 décennies.
Casey said, this engine's mine, I've run in glory, let's make mine time. Told all the patents better keep self here, cause we gon' shake just like Cheney did, like Cheney did. I'm gonna leave Memphis to spread the news. The Memphis women don't wear no shoes. I got it written in the back of my shirt. I'm a nasty bone east and I don't have to wait. I don't have to wait. I'm a nasty bone east and I don't have to wait. The police arrest me selling gin. They take me down to the station house. I not go around and they turn me out, turn me out. Not go around and they turn me out. There was a woman named Miss Alice Pride. Say I'm gonna ride with old Case or die. I ain't good looking, but I take my time. I'm a rambling woman, I got a rambling mind. Oh, I got a rambling mind. Now, mama, mama, I want you to look at sis. Standing in the backyard doing the twist. You come in here, you dirty wings. You ought to be changed at the morning bench. Morning bench. Ought to be changed at the morning bench. Now if you want to go to heaven when you're D.I.E., put on a collar and a T.I.E. You want to scare a rabbit out of L.O.G., just make a little stunt like a D.O.G. I'm on the road again. Some folks say Mr. Case couldn't run, but let me tell you what Mr. Case had done. He left Memphis, the 49, got in New York City, it was dinner time, dinner time.
Enregistré bien plus tard, en 1969, ce Natural Born Eastman par le chanteur Fury Lewis, reprenant une vieille chanson populaire racontant l'histoire bien réelle de Casey Jones, un cheminot qui, au tout début du siècle, s'était sacrifié pour arrêter un train devenu fou et en sauver les passagers. L'histoire de Fury Lewis, né dans le delta du Mississippi, ressemblera un peu à ce destin héroïque, ayant accédé à la notoriété à Beale Street dans les années 1920, avant de tomber dans l'oubli et de devenir cantonnier. « Les années 1920, Memphis, la puissante, se redessine, tandis que les premiers gratte-ciels voient le jour, comme celui érigé en 1924 par une compagnie d'assurance, la Columbia, ou bien, une poignée d'années plus tard, le Memphis Terrick Building, faisant culminer son style gothique à 110 mètres de haut. Ailleurs, dans la ville, la vie est bien différente. À Beale Street, le poumon noir de Memphis, la situation n'est guère reluisante, les bagarres y sont fréquentes, la cocaïne est en vente libre et fait des ravages. Mais la musique règne. La concurrence entre les orchestres est féroce. Tout se déroule, jazz, swing, musique country. De nombreux blancs fréquentent ces établissements, viennent coucher avec des prostituées noires, jouer aux cartes ou écouter des juke bands, ces groupes qui, par leurs instruments bricolés, font danser les foules. Memphis, et singulièrement Beale Street, devient ces années-là la capitale états-unienne des musiques noires. C'est que l'industrie musicale se développe. Les 78 tours sont devenus un luxe accessible à beaucoup, y compris aux Noirs du Sud. Et puis il y a la radio, présente dans un foyer américain sur trois. Dès lors, Beale Street attire à elle les acteurs de ce nouveau marché. Entre 1927 et 1930, les grands labels comme Columbia, Bluebird ou Victor y dépêchent leurs têtes chercheuses en quête de nouveaux talents à enregistrer. Ces rabatteurs écument Beale Street, font passer des auditions dans des hôtels avoisinants comme au Peabody, un grand hôtel de la ville. Parmi les artistes qui sortent alors de l'anonymat par ces enregistrements, la chanteuse Memphis Minnie, Fury Lewis qu'on entendait un peu plus tôt, mais aussi Will Shade and the Memphis Juke Band, comme dans ce titre de 1927. Memphis, le chanteur Will Shade, accompagné par le Memphis Juke Band pour ce Kansas City Blues 1927. On consécutive au krach boursier de 1929, la Grande Dépression met un terme provisoire à cette effervescence musicale. À Memphis, le blues passe de mode, remplacé par le gospel, l'espérance plutôt que la mélancolie. Pendant ce temps, Beale Street devient un ghetto négligé par une municipalité raciste. Les plus pauvres vont jusqu'à se nourrir de l'argile des berges du Mississippi. C'est l'époque de la prohibition et l'essor des juke joints, ces bars pouilleux, clandestins, construits de briques et de broc près du fleuve, mais où, le soir venu, s'écoule l'alcool de contrebande et le blues du meilleur calibre. En ville, Crump, le maire inamovible, est toujours au pouvoir. En 1940, il fait fermer les maisons closes. Hostile à Beale Street, il déploie une énergie considérable pour en museler la culture. Beaucoup des plus pauvres émigrent alors et vont s'installer à West Memphis, de l'autre côté du fleuve, en Arkansas. Pourtant, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Memphis redevient une plaque tournante incontournable pour les musiciens. À Beale Street se croisent alors tous les milieux de l'Amérique noire, des ouvriers aux professions libérales, des commerçants aux artisans. À cette époque, l'amplification des instruments sonne le glas du blues acoustique. Émergent alors les futurs géants du blues électrique, B.B. King, mais aussi Howlin' Wolf. Mooning at midnight, gémir à minuit, déchirante complainte racontant les désillusions des campagnards échoués en ville, enregistrée en 1951 par Howlin' Wolf au studio Sun, studio dont nous allons bientôt reparler. Cette après-deuxième guerre mondiale, la ségrégation règne donc encore à Memphis, où les Noirs ont certes le droit de voter, à condition d'adouber Crump, mais dont ce dernier malmène l'environnement, vouant aux gémonies l'effervescence de Beale Street. pourtant, les influences culturelles noires se propagent auprès de certains jeunes blancs curieux, notamment via l'essor des radios. Des radios, Memphis en 46 en compte 5, qui passent principalement de la musique blanche. Mais cette année-là voit la création d'une nouvelle station, WDIA. À la différence des autres, elle cible les noirs. Un révérend y anime une émission de gospel. Rufus Thomas, un jeune DJ bavard et rigolard, y produit l'émission House of Happiness. Un musicien qui perce alors à West Memphis et dans les clubs de Beale Street au point d'avoir gagné le surnom de Beale Street Blue Boy se lance lui aussi sur les ondes. Ce type, c'est le futur B.B. King. Et puis, il y a aussi, plus méconnu, Dewey Phillips qui, la même année, se met à animer sur une autre radio une émission Red Hot and Blue. 3 quarts d'heure, puis rapidement 3 heures chaque soir de 21h à minuit, pendant lesquelles il diffuse de tout, country, jazz, blues, vu que pour lui, la musique échappe au conflit de race, s'exprimant avec un débit de mitraillette comme dans cet archive de 1952.
Oh, yes, sir, good feeling, so Phillips, that about on a bad got Kennedy Veterans Hospital, War 24E. Just flat fixing, bringing you the hottest thing in the country, real hot and blue, coming to you through WHBQ in Memphis, Tennessee, and it's Friday night, tomorrow's payday and birthday. That's a good deal.
Toute cette effervescence musicale parvient aux oreilles de l'un des personnages centraux de cette histoire, Sam Phillips. C'est un blanc né en Alabama en 1923, mais qui depuis toujours est sensible au blues rural et au gospel qu'il entend. Il fréquente les bals de Beale Street, sonorise ceux donnés à l'hôtel Peabody, il écoute la radio WDIA, bref, il s'imprègne de toute cette matière musicale. En janvier 1950, Sam Phillips saute le pas et ouvre sur Union Avenue le Memphis Recording Service, un studio d'enregistrement. Phillips écume les mariages, les enterrements, les anniversaires. Progressivement, il se fait un nom et le Memphis Recording Studio devient l'un des seuls studios professionnels du Sud où les artistes noirs peuvent graver leurs morceaux plutôt que de devoir se rendre à New York, Chicago ou Hollywood. Coup de chance, le 5 mars 1951, Phillips dirige une session d'enregistrement du musicien Ike Turner, un type venu de Clarksdale, un peu plus au sud. En route, l'ampli que Turner transportait sur le toit de son break est tombé et s'est abîmé. En studio, lui et Phillips décident d'exploiter ce son saturé. Le résultat, interprété en compagnie du groupe Les Kings of Rhythm et du saxophoniste Jackie Branston qui chante pour l'occasion, c'est Rockets 88, morceau parfois considéré comme la première chanson rock'n'roll. France Culture, jukebox, aujourd'hui, blues, rock, soul, Memphis, dans tous ses états.
You women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow!
in my rocket and don't be late. Baby, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and get a bill. Everybody in my car's gonna take a little dip. Move on out, oozing and cruising along.
Mars 1951, Ike Turner et Jackie Brenston pour ce Rocket 88, pour lequel Sam Phillips, qui ne maîtrise pas encore tous les rouages financiers de l'industrie musicale, ne touchera presque rien, l'essentiel de la somme allant au label Chess de Chicago. Quelques mois plus tard, Sam Phillips a enfin décidé de monter sa propre maison de disques, Sun Records Company, qui ouvre en mars 52. Un an plus tard, il décroche enfin son premier tube, faisant enregistrer le célèbre DJ noir de la ville dont on avait parlé plus tôt, Rufus Thomas. Rufus Thomas interprétant ce Beer Cat. Ça y est, Sun tient enfin son premier succès.
You know what you said about me, don't you, woman? Well, you ain't nothing but a bear cat. Been scratching at my door. You ain't nothing but a bear cat. Been scratching at my door. You can purr, pretty kitty, but I ain't gonna rub you no more.
Cette nouvelle musique fait des émules, y compris parmi les Blancs. Ainsi, dans son HLM, le jeune Elvis Presley se délecte-t-il à l'écoute des émissions de Rufus Thomas ou bien de B.B. King. Comme des milliers d'autres adolescents blancs, sa fascination ne cesse de grandir pour les musiques noires. Au lycée, Elvis devient populaire. Il est beau gosse avec ses rouflaquettes. Paquet de Lucky Strike coincé dans la manche retroussée de son t-shirt, lui et ses copains se baladent le soir dans des voitures rabaissées aux pots d'échappement trafiqués, faisant du raffut dans les beaux quartiers. Passionné de musique, il vénère Rosetta Tharpe ou bien encore Louis Jordan. Clairement, il se sent plus proche de la culture des Noirs et de leur gospel que de celle des Blancs. En février 53, contrevenant à la loi qui interdit alors aux Blancs de pénétrer dans un établissement noir, il se produit pour la première fois au club Handy, où, dans un costume rose bonbon, il interprète Milka Blues Boogie.
Oh well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old Milka with the way she looks. Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change. Well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old Milka, I can tell the way she looks. Now if you saw my Milka, he's a rockin' on home, home. I had no milk and butter since that cat's been gone. Well, I tried to treat you right day by day. I told a little prayer for get out on your knees and pray, boy, you're gonna need. You're gonna need your love and daddy's help someday. Fine, you're gonna be sorry treating me this way. Oh, let's milk it. Everything to get along with you. I'm gonna tell you what I'm gonna do. I'm gonna quit my crying. I'm gonna leave you alone. If you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone. I'm gonna leave. You're gonna need your loving.
daddy's help someday.
And you're gonna be sorry for treating me this way.
Puis, 6 mois plus tard, nous sommes en août 53, il pousse la porte du studio de Sam Phillips, Sun, où, contre $3.98, il enregistre pour son propre plaisir 2 chansons sur un disque. L'année suivante, on lui propose d'accompagner le guitariste Scotty Moore, leader d'un groupe de country qui cherche justement un chanteur. Sam Phillips est un peu hésitant, mais au cours d'une session épuisante et erratique, Elvis et les autres accouchent finalement d'une reprise miraculeuse de « That's Alright Mama », un blues signé Arthur Crudup. 2 jours plus tard, la chanson est diffusée par Dewey Phillips dans son émission de radio, faisant exploser le standard de la station. Notamment lorsque l'animateur révèle au public que le chanteur en question est bien blanc. En quelques semaines, That's Alright Mama devient un tube dans tout le sud du pays, jonction entre le blues du Delta et la country de l'Amérique blanche. À cette époque, il est sur des rails. C'est devenu une star. En quelques mois, il s'est produit partout dans les grands rendez-vous du Sud comme le Grand Ole Opry ou le Louisiana Hayride de Shreveport. Entre 54 et 55, il grave d'autres singles pour Sun Records, notamment Mystery Train ou Blue Moon. Mais bientôt, il quitte le label de Sam Phillips et c'est pour d'autres qu'il enregistre en 1956 Blue Suede Shoes. L'année suivante, désormais riche, Elvis s'achètera l'immense propriété de Graceland où il s'installera en compagnie de sa mère. Mais bientôt, appelé sous les drapeaux, il part faire son service militaire en Allemagne. À son retour, l'innocence de la jeunesse aura quitté le King. À Memphis, dans le même temps, une page se tourne. Le maire de la ville, Crump, s'est enfin éteint dans son manoir. La ville connaît alors un vent de liberté avec l'abolition de certaines lois ségrégationnistes. Soudain, les enregistrements mêlant rhythm and blues et country se multiplient. Sam Phillips, de son côté, a dû trouver des remplaçants pour pallier le départ d'Elvis. Faisant montre du même flair et désormais épaulé par un opérateur de studio, un certain Jack Clements, Phillips enregistre plusieurs inconnus comme Bill Riley, qu'on entend en ce moment, mais aussi Johnny Cash ou Roy Orbison, excusé du peu. Et puis, l'année suivante, un nouveau venu débarque de Nashville. C'est un blanc bec au parcours chaotique, alcoolique, vendeur de machines à coudre, qui s'est marié très jeune. Rejeté par différentes maisons de disques de Nashville, il obtient, à force d'obstination, une audition chez Sun. Il y enregistre 2 titres qui feront sa gloire, Whole Lotta of Shaking Going, et puis, en octobre 57, Great Balls of Fire. Ce chanteur, c'est Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, my honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Tell this world that you're mine, that you're my nails and that you twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. In this group, it's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're mine, that you're mine. I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on,
baby, driving crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire.
Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, dont plus d'un million d'exemplaires s'écoulent en une dizaine de jours. Malgré ce succès, malgré son incroyable énergie sur scène, cette manière de danser devant son clavier, le flamboyant jeune rocker se grille très vite lorsqu'on apprend, quelques mois plus tard, qu'il a épousé sa cousine âgée de 13 ans, qui plus est, alors qu'il n'a toujours pas divorcé de sa précédente épouse. Le scandale ruinera définitivement sa carrière. À la même époque, plusieurs des stars de Sun Records quittent la ville, Roy Orbison ou bien Johnny Cash. Pour Sam Phillips, c'est la fin d'une époque. À Memphis, depuis quelques années, se sont multipliés les studios d'enregistrement. Outre Sun Records, s'est créé High Records ou bien encore le studio Royal. Mais le flambeau de la production musicale locale est alors surtout repris par un autre homme, James Stewart. Passionné de musique country, il s'ennuie dans son boulot d'employé de banque. Il rêve de musique. Il trouve alors un cinéma abandonné au sud de la ville et avec l'aide de sa sœur, Estelle Axton, une institutrice qui hypothèque sa maison, il fonde le studio et le label Satellite qui, bientôt, deviendra la Stax. Les débuts de la Stax sont difficiles, mais Estelle a la bonne idée d'ouvrir, attenant au studio, un magasin de disques. Elle installe des petites enceintes sur le trottoir. Les gamins de la rue s'arrêtent à la sortie de l'école, s'y rassemblent, se mettent à danser. Estelle déniche ceux qui, parmi eux, ont du talent, les fait venir dans son arrière-boutique. Et c'est ainsi que se forme le groupe qui fera le premier le succès de la Stax, les Marquises, formés du fils d'Estelle et d'autres. Creusant un rhythm and blues, ils enregistrent en 1961 Last Night, dont les cuivres et le twist affolent le public. En parallèle, James Stewart se rapproche de Rufus Thomas, le fameux DJ de radio dont on parlait plus tôt. Stewart se dit que, compte tenu du boulot à la radio de Rufus Thomas, ce dernier est bien placé pour diffuser sa propre musique. Alors, en 1960, il lui fait enregistrer un premier titre, « Cause I Love You », où Rufus est accompagné par sa fille, Carla, alors âgée de 16 ans. La Stax tient son premier succès. We'll be right back. Carla et Rufus Thomas, 'Cause I Love You, 1960. À Memphis, ville étrange, violente et où, jusqu'en 1971, blancs et noirs n'ont pas le droit de se baigner dans la même piscine, la Stax constitue un îlot de mixité et de tolérance. Peu importe la couleur de peau des artistes, seul compte leur talent. Ainsi, un dimanche d'avril 1962, s'y retrouvent deux des musiciens blancs des Marquises, mais aussi deux autres musiciens noirs, le batteur Al Jackson et puis un organiste du coin, un certain Booker T. Jones qui, à 19 ans, fréquente le magasin de disques d'Estelle. Ces quatre-là doivent accompagner un chanteur de rockabilly qui n'arrive pas. Alors, pour s'occuper, ils improvisent un morceau que James Stewart a la bonne idée d'enregistrer. Green Onions deviendra l'un des meilleurs instrumentaux de Rhythm and Blues et la signature sonore de la Stax. En 1965, Al Bell, un noir, devient le responsable de la promotion du label aux côtés de James Stewart. Énergique, disposant d'un énorme carnet d'adresses, connaissant les DJ de tout le pays, il donne un coup d'accélérateur à la Stax. Mais celui qui va véritablement emmener la Stax au sommet, c'est Otis Redding. À l'automne 62, ce type né en Géorgie, qui avait dû quitter l'école très tôt pour subvenir aux besoins de sa famille, est devenu musicien. Par la suite, il a rencontré un prodige de la guitare, un certain Johnny Jenkins, qu'il s'est mis à accompagner. Ce jour de 62, donc, Jenkins doit enregistrer au studio Stax avec le groupe de Booker T. Mais n'ayant pas le permis de conduire, il demande à Otis de l'y amener. Pendant toute la session, Otis, depuis la régie, insiste pour qu'on lui laisse tenter sa chance à lui aussi, qu'il puisse enregistrer une chanson. Ce qu'il donnera à entendre à l'équipe du label ne souffrira d'aucune contestation. La Stax tient enfin une voix de génie, une sensualité inédite. Ses bras qui sont les miens, ils brûlent de désir. Si tu voulais les laisser te tenir, je t'en serais tellement reconnaissant.
These arms are mine. They are lonely. Lonely and feeling blue. Arms of mine, they are yearning, yearning for wanting you, and if you would let them hold you, oh, how grateful I will be.
Otis Redding, These Arms of Mine, 1962, titre qui lancera sa carrière et s'écoulera à 800 000 exemplaires. grâce à l'impressionnante notoriété d'Otis Redding. En mars 67, la Stax décide d'emmener ses principaux artistes pour 3 semaines de concerts en Europe. L'enthousiasme qu'ils rencontrent sur place souligne davantage le climat délétère en cours aux États-Unis, où malgré l'adoption de la loi de 1964, les ségrégations raciales se poursuivent. Incarnant la continuité du blues des origines, celui des champs de coton, la Stax s'inscrit pleinement dans ce mouvement des droits civiques, à la différence de sa rivale, la Motown, qui, avec un son plus édulcoré, tente de séduire le public blanc. Pourtant, pour la Stax, l'horizon s'assombrit d'un coup. En décembre 67, Otis Redding décède dans le crash de son avion dans un lac du Wisconsin. Sorti quelques semaines plus tard, « Sitting in the Dock of the Bay » devient un numéro 1 posthume.
So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay,
quelques semaines plus tard, à Memphis, 2 éboueurs noirs sont tués. Leurs collègues se mettent alors en grève pour réclamer des augmentations de salaire. Mais des violences éclatent autour de ces marches pacifiques. Martin Luther King vient soutenir le mouvement. Archive France Inter, le 30 mars 68.
Depuis 2 jours, 4000 gardes nationaux stationnent dans les rues de Memphis, où une manifestation a causé la mort d'une personne hier. Le pasteur Martin Luther King a décidé d'organiser un nouveau meeting la semaine prochaine, malgré la tension qui persiste dans cette ville de l'État du Tennessee.
Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land.
Quelques heures plus tard, le 4 avril 68, Martin Luther King est assassiné sur le balcon de sa chambre d'hôtel. L'acte plonge Memphis comme nombre d'autres villes dans le chaos, pillage, incendie. Plus largement, cette mort anéantit la créativité de la ville. La méfiance s'instaure alors entre blancs et noirs, même au sein des milieux protégés, même chez la Stax qui pourtant vivait jusqu'alors dans une bulle et où, désormais, il faut raccompagner les musiciens blancs jusqu'à leur voiture. Le nouveau vice-président de la Stax, un noir nommé Al Bell, prend alors les choses en main. Il change de logo, remplace la pile de disques par une main claquant des doigts. Cette année 68, 27 albums sortent en un seul mois pour inonder le marché et reconstituer un catalogue. De nouveaux artistes sont signés comme les Staple Singers ou Johnny Taylor. Mais la Stax s'appuie surtout sur Isaac Hayes qui, en septembre 69, sort son premier album solo, Hot Buttered Soul, comprenant les 12 minutes de ce Walk On By. Deux ans plus tard, se rapprochant du Black Power, Isaac Hayes participe au mouvement de la Blaxploitation, ce cinéma prônant la fierté noire, signant la bande originale du film Shaft. Grâce à lui, la Stax connaît un nouveau départ, même si le sursaut sera de courte durée. En 1972, la Stax commémore les 7 ans des émeutes de Watts lors d'un immense festival donné à Los Angeles. Mais par la suite, en 75, elle doit baisser le rideau, plombée par ses dettes. Et puis, le 16 août 1977, une légende s'éteint.
À 42 ans, en pleine carrière, Elvis Presley, le roi du rock'n'roll, est mort. Il est mort à Memphis, dans le Tennessee. Cela s'est passé hier après-midi. Son impresario, Joey Esposito, a poussé la porte de la maison forteresse dans laquelle le chanteur vivait reclus depuis 2 ans. Et Denis Poncet, il l'a trouvé dans un état de semi-inconscience.
Les premières analyses confirment la mort naturelle.
Tandis que le King expire dans la salle de bain de marbre de Graceland, victime d'un mal-être persistant, Memphis s'enfonce. Au début des années 80, musicalement, le son de la ville est concurrencé par le disco, le hip-hop ou une nouvelle forme de rhythm and blues. Quant à Beale Street, la rue n'est plus que l'ombre d'elle-même. Dans un pays où la protection du patrimoine architectural n'existe pas encore, la rue a été livrée aux bulldozers ou aux appétits des promoteurs immobiliers. Non loin de là, l'Orpheum Theater est l'un des derniers vestiges des années 20. Les locaux de la Stax, eux, sont détruits en 89, même si, en 2003, un musée de la Soul y voit le jour. Aujourd'hui, Beale Street ressemble à un décor de carton-pâte, du faux, du fake, du Disneyland. Des voitures de flics sont bien là pour rassurer les touristes venus s'émerveiller à la lueur des néons ou écouter du mauvais blues. La gloire musicale de la ville n'est plus qu'un souvenir, même si son héritage, sa contribution au patrimoine musical mondial, vit encore. C'est sur ce titre de 1982, signé de l'étrange et loufoque Taff Falco, que se referme ce numéro de Jukebox aujourd'hui. Memphis, la musique en héritage. Merci pour leur préparation à Georgi Daskalov, à Pierre Plantin, à Lily Cornaert, ainsi qu'à Sophie Enoch. À lire l'indispensable ouvrage de Florent Mazzoleni, Memphis, aux racines du rock et de la soul, paru en 2009 chez Castor Music et qui a largement nourri l'écriture de cette émission. Rendez-vous sur le site de France Culture pour réécouter ou télécharger cette émission. À la technique aujourd'hui, c'était Benjamin Vignal. Agnès Catou à la réalisation, au micro Amaury Chardot. À dimanche 15h pour un prochain Jukebox.